de la relation inversement proportionnelle entre la valeur sociale d'un travail et la rémunération que l'on peut espérer en retirer. Virtutum omnium pretium in ipsis est. Toutes les vertus portent leur récompense en elles-mêmes. Lettre à Lucilius, livre 10, lettre 81-19, Sénèque. Dans mon article de 2013, j'avais voulu insister sur cette histoire de relation inverse, car c'est quelque chose qui m'avait frappé pendant l'expérience Occupy Wall Street 2 ans plus tôt. Les partisans du mouvement, en particulier ceux qui ne pouvaient exprimer leur soutien que lors des manifs et sur le web, parce que leur travail ne leur laissait pas le temps de traîner beaucoup sur les campements, se plaignaient souvent en ces termes. Moi, je voulais faire quelque chose d'utile de ma vie. Je rêvais d'avoir un boulot qui aurait un impact positif sur les autres, ou au moins qui ne ferait de mal à personne. Mais dans le système actuel, si vous choisissez de vous consacrer aux autres, vous serez condamné à être tellement sous-payé et endetté que vous ne pourrez pas subvenir aux besoins de votre propre famille. Ils en concevaient une rage profonde et tenace. En mon for intérieur, j'ai commencé à appeler cela la révolte des classes aidantes. Parallèlement, les occupants du parc Zuccotti à Manhattan nous racontaient que de jeunes traders de Wall Street passaient les voir de temps à autre et leur disaient des trucs du genre « Écoutez les gars, c'est vous qui avez raison. Je ne crée rien de positif. Le système est pourri et je suis sans doute une partie du problème. Si vous me trouvez un moyen de vivre à New York avec un salaire annuel à moins de 6 chiffres, je démissionne demain. » Tout cela fait écho à des dilemmes déjà évoqués ici. Annie expliquait que de nombreuses femmes travaillant dans le secteur de la petite enfance étaient forcées de quitter leur job et de prendre un emploi de bureau pour pouvoir payer leur loyer. Hannibal, le chercheur en médecine, résumait son expérience par cette formule « Le montant que je facture pour rédiger des rapports à la con est presque parfaitement inversement corrélé avec l'utilité de ce boulot. » Nous sommes face à un problème social de taille et pour s'en convaincre, il suffit de se livrer à un petit exercice mental, celui que je proposais dans mon article « Imaginez les conséquences qu'entraînerait la disparition pure et simple de certaines catégories de travailleurs ». Prenons le temps d'envisager plusieurs cas de figure. Si nous nous réveillons un beau matin pour découvrir que tous les infirmiers, éboueurs ou mécaniciens avaient été téléportés dans une autre dimension, ce serait une véritable catastrophe. Et ça marche aussi avec les chauffeurs de bus, les employés de supermarchés, les pompiers, les cuistots. Si les instituteurs d'école primaire s'évaporaient du jour au lendemain, nul doute que les écoliers commenceraient par fêter ça, mais les effets à long terme seraient encore plus dévastateurs. Déplaçons-nous sur un autre terrain. Il est évident que l'on peut débattre des mérites respectifs du death metal et de la musique klezmer, ou des romans à l'eau de rose et de l'ASF. Mais on ne saurait nier que l'extinction soudaine d'un genre particulier d'écrivains, d'artistes ou de musiciens, tout en faisant le ravissement de certains ou en les laissant indifférents, sera vécue comme un événement tragique par d'autres pour qui le monde deviendra brusquement un endroit lugubre et déprimant. Maintenant, oseriez-vous en dire autant des directeurs de fonds spéculatifs, des conseillers en communication politique, des gourous du marketing, des lobbyistes, des avocats d'affaires ou des types dont le boulot est de s'excuser parce que le menuisier n'est toujours pas venu? Finn, rencontré au chapitre 4, a déjà répondu à la question. Si en me pointant lundi, je découvrais que l'immeuble avait disparu, non seulement le monde entier s'en ficherait éperdument, mais moi aussi. On peut même faire le pari que le monde se porterait infiniment mieux si un certain nombre d'immeubles de bureaux bien précis étaient rayés de la carte. Je suis sûr que tous les lecteurs auront immédiatement plusieurs exemples à l'esprit. Et pourtant, c'est justement dans ces bureaux que se trouvent les plus gros salaires. À vrai dire, il n'est pas rare de voir des postes très haut placés et prétendument essentiels rester inoccupés pendant des mois, voire plus, sans que cela produise d'effets notables, y compris à l'intérieur même de l'organisation. Ces dernières années, la Belgique a traversé une série de crises constitutionnelles qui l'ont temporairement privée de gouvernement. Pas de Premier ministre, pas de portefeuille de la santé, des transports, de l'éducation. Bien que ces périodes de vacances du pouvoir aient parfois été exceptionnellement longues, le record s'établit pour l'instant à 541 jours, on n'a noté aucun impact négatif sur la santé, les transports, ni l'éducation. On peut certes penser que, si cela se prolongeait pendant des décennies, cela finirait par avoir des répercussions. Mais il est difficile de dire lesquelles, et même de décider si les effets positifs ne l'emporteraient pas finalement sur les effets négatifs. Selon mes amis belges, les résultats de cette crise, globalement, se sont révélés extrêmement bénéfiques. Comme presque tous les grands partis politiques du pays s'accordaient sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'austérité, un consensus européen à l'époque, l'absence de gouvernement fédéral à ce moment critique a empêché d'engager les réformes prévues. Du coup, la Belgique a connu une croissance économique beaucoup plus rapide que ses voisins. Il faut préciser que les gouvernements des régions, eux, n'étaient pas affectés par les crises constitutionnelles. De même, à l'heure où ces lignes sont écrites, la société Uber, considérée comme l'une des plus dynamiques du monde, a vu démissionner non seulement son fondateur, Travis Kalanick, mais une flopée d'autres hauts dirigeants, si bien qu'elle fonctionne désormais sans PDG, sans directeur général, sans directeur financier et sans directeur marketing. Ce qui n'a eu apparemment aucune conséquence sur ses activités quotidiennes. Ce n'est pas non plus un hasard si les salariés de la finance et d'autres professions très bien payées ne se mettent presque jamais en grève. Comme le raconte Rutger Bregman, l'Irlande a connu en 1970 une grève des banques longue de 6 mois. Alors que ses organisateurs anticipaient un blocage total de l'économie, les choses ont pris un tour bien différent. Non seulement les gens ont continué à faire des chèques, lesquels se sont mis à circuler en guise de monnaie, en quelque sorte, mais tout le monde a poursuivi ses activités de manière à peu près inchangée. 2 ans plus tôt, à New York, il n'avait pas fallu plus de 10 jours de grève des éboueurs pour que la municipalité accède à leurs revendications. La ville était devenue invivable. Même les grèves de policiers ont rarement les effets escomptés. En décembre 2015, la police new-yorkaise a décrété un arrêt de travail général, à l'exception des affaires urgentes. Résultat, aucun impact sur le taux de criminalité, mais un effondrement des revenus de la ville, qui s'est vu brusquement privé de rentrées d'argent que constituaient les amendes pour infractions routières et autres délits similaires. La disparition totale de la police dans une grande métropole, que ce soit par suite d'une grève générale ou pour d'autres raisons, comme à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale après que l'occupant allemand eut procédé à des arrestations massives, tend à s'accompagner d'une recrudescence des crimes contre les biens, type cambriolage, mais reste sans effet sur les crimes violents. Dans la région de Madagascar où j'ai vécu entre 1989 et 1991, une zone rurale caractérisée par une certaine tradition d'autonomie politique, le retrait de la police imposé par les mesures d'austérité du FMI n'a quasiment rien changé. Quand j'y suis retourné 20 ans plus tard, presque tous mes interlocuteurs m'ont assuré que le nombre de crimes violents avait nettement augmenté depuis que la police était revenue. Rares sont les économistes à avoir sérieusement entrepris de mesurer et comparer la valeur sociale de différentes professions à l'échelle de la société. Pour beaucoup, cela s'apparente sans doute à une mission impossible. Mais ceux qui s'y sont risqués tendent à confirmer l'existence d'une relation inverse entre utilité et rémunération. Les économistes américains Benjamin B. Lockwood, Charles J. Nathanson et Euglen Whale, qui ont publié leurs travaux en 2017, ont épluché toute la littérature existante sur les externalités, coûts sociaux, et les effets d'entraînement, bénéfices sociaux, associés à un éventail de professions bien rémunérées. Leur objectif était de tenter de calculer combien chacune d'elles ajoutait ou retranchait à l'économie dans son ensemble. Les valeurs en jeu dans le domaine des industries créatives leur ont paru trop subjectives pour pouvoir être quantifiées. Mais une estimation approximative s'est révélée possible dans la plupart des autres cas. Parmi les professions dont la contribution a été calculée, les chercheurs en médecine seraient ceux qui présentent la valeur sociale la plus élevée. Pour chaque dollar reçu en salaire, ils accroîtraient la valeur globale de l'économie de 9 dollars. Viennent ensuite les instituteurs avec une valeur de 1 dollar. Les professions dont la valeur sociale est la plus faible seraient celles du management et de la finance. En moyenne, ces salariés amputeraient la société respectivement d'une valeur de 0,80 dollars et de 1,80 dollars net pour chaque dollar reçu en rémunération. Ces résultats corroborent indéniablement les perceptions instinctives générales sur ces questions, et on ne peut que se réjouir de les voir publiés noir sur blanc. Cependant, le fait que les auteurs se soient concentrés sur les professions les mieux payées limite l'intérêt de leurs conclusions pour notre propos. Les instituteurs sont sans doute en moyenne les moins bien lotis de la liste, et nombre de chercheurs doivent aussi se contenter de très bas salaires. Cela confirme donc la relation négative entre rémunération et utilité. Mais, si l'on veut embrasser toute la variété du monde du travail, il nous faut un échantillon plus large. À ma connaissance, l'étude la plus complète sur le sujet, avec un panel de grande ampleur, est celle qu'a menée la New Economics Foundation au Royaume-Uni. Utilisant une méthode appelée « analyse du retour sur investissement social », elle examine 6 professions représentatives, 3 à forte rémunération, 3 à faible rémunération. Voici un résumé de ses résultats. Banquier de la City. Salaire annuel, environ 5 millions de livres. Estimation de la valeur sociale détruite pour une livre gagnée, 7 livres. Cadre de la publicité. Salaire annuel, environ 500 000 livres. Estimation de la valeur sociale détruite pour une livre gagnée, 11 livres 50. Comptable fiscaliste. Salaire annuel, environ 125 000 livres. Estimation de la valeur sociale détruite pour une livre gagnée, 11 livres 20. Agent d'entretien hospitalier. Salaire annuel, environ 13 000 livres. 6 livres 26 de l'heure. Estimation de la valeur sociale produite pour une livre gagnée, 10 livres. Agent de recyclage. Salaire annuel, environ 12 500 livres, 6 livres 10 de l'heure. Estimation de la valeur sociale produite pour une livre gagnée, 12 livres. Employé de crèche, salaire annuel, environ 11 500 livres, estimation de la valeur sociale produite pour chaque livre gagné, 7 livres.